Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. Face à face.
Benjamin Duhamel.
8h33 sur RMC BFM TV. Mon invité aujourd'hui dans le face-à-face, c'est Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Bonjour monsieur Véran.
Bonjour.
Alors on va commencer avec l'inflation qui continue de flamber. Une augmentation moyenne de 10% est annoncée à partir de début mars, c'est-à-dire maintenant. Il y a urgence donc, et pourtant toujours pas d'annonce du côté du gouvernement. Juste cette promesse franchement floue de Bruno Le Maire qui parle de nouvelles mesures. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur Véran ?
C'est vrai que l'inflation, elle va être d'environ, on l'attend, environ 10%, c'est-à-dire qu'il y aura 10% d'augmentation des produits entre mars 2022 et mars 2023. C'est pas 10% d'un coup qui
14% sur l'alimentaire.
Et c'est vrai, voilà, sur un an glissant. Et c'est vrai que ça a un impact sur le panier de consommation des ménages, ça a un impact dans le quotidien des Français. L'État, il prend sa part. Il continuera de prendre sa part. On a eu le bouclier tarifaire, on a toujours le bouclier tarifaire sur l'énergie.
Sur l'énergie, mais là, sur l'alimentaire.
On a un chèque sur le carburant, on a augmenté les minima sociaux, on a augmenté le SMIC, etc. Bien. Ce qu'on veut, c'est que chacun prenne sa part. Et quand on dit chacun prenne sa part, le président de la République l'a dit lors du salon de l'agriculture, il faut que la grande distribution prenne sa part. Elle est actuellement en négociation avec les industriels pour essayer de casser des prix. Et le gouvernement agit avec Bercy pour faire en sorte que des prix soient en particulier cassés sur des produits du quotidien indispensables pour les Français, alimentaires et d'hygiène par exemple.
C'est-à-dire, parce que maintenant là-dessus, on comprend absolument rien. Le panier anti-inflation, on nous dit d'abord oui. Ensuite, Bruno Le Maire dit ce sera peut-être pas un panier. Olivier Grégoire, il y a quelques instants, dit oui, il est sur la table. Le chèque alimentaire, c'était oui, en fait c'est non. Enfin, attendez, les Français se disent mais qu'est-ce qu'ils font concrètement pour faire en sorte qu'on paye moins cher dans les rayons ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ce que nous faisons, c'est travailler avec la grande distribution, avec les industriels, pour qu'in fine, quand un Français va faire ses courses, que ce soit dans une marque ou dans une autre, eh bien, il puisse aller acheter les produits dont il a besoin au quotidien à prix cassé. Ce qu'on veut, c'est que le panier de la ménagère, le panier ménager, il soit à prix contrôlé,
à prix maîtrisé. Un panier anti-inflation.
C'est ce qui est en train d'être discuté entre Bercy. Quel sera le nom ou la formule? J'allais vous dire, ce qui compte pour la personne qui fait ses courses, c'est quand elle va acheter des produits essentiels pour son quotidien, elle trouve, elle identifie où qu'elle aille des produits à prix cassé, maîtrisé.
Dominique Schellcher, le patron de Système U, dit ce matin dans Le Parisien, les politiques n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation. Est-ce que vous n'avez pas pris la mesure de cette gravité, comme il dit ?
Quand je dis qu'on est tous embarqués dans le même bateau, qui est le bateau France, pour faire en sorte que les Français puissent en sortir avec cette inflation, je crois qu'il est inutile de s'envoyer la balle les uns vers les autres. Je rappelle, et c'est d'ailleurs les chiffres de l'OFCE, c'est important quand même de le souligner, sur l'année 2022, il y a eu 800 euros de pouvoir d'achat donné aux Français à travers le bouclier tarifaire sur l'énergie et à travers les ristournes sur le carburant. Il faut ajouter 250 euros en moyenne qui sont liés à des baisses d'impôts, la suppression de la redevance audiovisuelle ou la fin de la suppression de la taxe d'habitation.
Mais donc sur l'alimentaire,
attendez, c'est... parce que c'est important.
Oui, mais attendez, juste sur l'alimentaire, donc c'est l'État ne peut rien faire. Les distributeurs, s'il vous plaît, faites un effort.
C'est important quand on dit que fait l'État. 400 euros de pouvoir d'achat pour les plus précaires à travers le chèque énergie, le chèque alimentaire, à travers les hausses des minima sociaux. Donc l'État prend sa part. Et quand je dis qu'on continuera à le faire, c'est qu'on est bien évidemment, les priorités des Français sont les priorités du gouvernement.
Mais sur l'alimentaire, on attend un geste des distributeurs en espérant que ça arrive.
Il y a actuellement la fin des négociations entre les distributeurs et les industriels. Ce que nous disons, c'est qu'on veut sanctuariser notre agriculture, qu'on veut faire en sorte que les PME françaises qui produisent dans le domaine de l'alimentaire ne soient pas obligées de se serrer la ceinture. C'est important qu'elles puissent continuer à développer une agriculture de qualité. On veut de la souveraineté alimentaire.
Mais vous avez des moyens de coercition sur les distributeurs pour s'assurer que les prix soient maîtrisés.
Les négos soient extrêmement serrés entre la grande distrib et les grands groupes alimentaires, notamment des grands groupes américains, mais pas que, pour faire en sorte qu'on ait ces produits, encore une fois, à prix maîtrisé. Donc, vous allez avoir tout qui va vous être présenté par Bercy. Ils sont en train de terminer les négociations, vous le savez.
Et si c'est pas un panier anti-inflation, qu'est-ce que c'est?
Et Olivier Grégoire, on dit d'ici au 15 mars, il y aura, je vous redis, quand vous allez faire vos courses, ce qui compte à la fin, c'est quoi? C'est le nom qui est marqué sur le dispositif ou c'est le montant de votre facture? Bon, nous, on veut que le montant de la facture, c'est ça qui compte pour les Français.
Donc vous assurez aux Français que les étiquettes seront en quelque sorte maîtrisées au 15 mars, il y aura un geste significatif.
On se donne tous les moyens pour faire en sorte que toutes les marques de grande distribution, certaines le font d'ailleurs déjà depuis des semaines, voire des mois. Hein. Mm-hmm. Vous allez dans certaines grandes surfaces,
oui,
vous avez 100, 150 produits à prix coûtant, à prix cassé,
etc. Et d'autres, Carrefour, Auchan, Leclerc, refusent ce principe de panier anti-inflation. Ils disent, nous, on n'en veut pas, Carrefour on fait déjà des gestes.
Carrefour a déjà mis en place ce que j'ai fait un déplacement il y a déjà pour la rentrée scolaire.
Oui, eux disent effectivement, on fait déjà dans nos magasins des gestes.
Ce qui compte pour nous, c'est qu'encore une fois, où que vous alliez faire vos courses, vous ayez des produits à prix coûtant, cassé, maîtrisé.
Un tout dernier mot sur ce sujet, Marine Le Pen, elle dit il faut une TVA à 0% sur une centaine de produits de première nécessité.
Mais Benjamin Duhamel, ça ne marche pas. Si vous baissez la TVA sur les produits, vous n'avez pas de répercussions. Ou alors c'est vraiment au petit bonheur la chance pour les consommateurs. Ce qui fonctionne pour les consommateurs.
Il y a un pays européen, monsieur Véran, un gouvernement socialiste qui a passé la TVA à 0% sur des produits de première nécessité.
Évaluons le dispositif, regardons comment ça fonctionne.
Donc c'est possible.
L'expérience, mais je dis pas que c'est impossible légalement. Je vous dis que c'est pas le plus efficace et que c'est sans doute même pas suffisamment efficace par rapport au coût que ça représente.
Sur les retraites, la réforme a été votée hier soir en commission. Elle arrive en séance demain. Rappelons que ce sont les sénateurs, les Républicains qui sont majoritaires. Et eux, ils veulent aller plus vite que le gouvernement sur les régimes spéciaux, c'est-à-dire plus vite que ce qu'on appelle la clause du grand-père, le fait que les régimes spéciaux s'éteindraient seulement pour les nouveaux entrants dans les régimes. Eux veulent que ça s'éteigne progressivement dès 2025. Question extrêmement simple. Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que le gouvernement dit non ?
On ne le souhaite pas. On veut appliquer aux régimes spéciaux existants ce qu'on a appliqué au régime de la SNCF. Ça a fonctionné.
C'est-à-dire la clause du grand-père.
Ça a fonctionné. On ne change pas les règles du jeu en cours de route. Et donc, nous supprimons les régimes spéciaux. C'est notre majorité qui le fait. Les autres majorités de droite et de gauche avaient la possibilité de le faire si elles l'avaient souhaité dans les réformes précédentes. Nous l'assumons, nous le faisons. Mais nous le faisons avec équilibre, c'est-à-dire avec une entrée progressive dans le dispositif. Permettez-moi de souligner que c'est important. La commission des affaires sociales du Sénat a examiné la réforme des retraites. Et là, voter. Donc maintenant, le texte va partir en séance, dans l'hémicycle, et nous souhaitons que les débats soient éclairants pour les Français, se déroulent dans le calme, mais j'ai aucun doute
s'agissant du Sénat, plus qu'à l'Assemblée nationale.
Et avoir un vote sur ce texte.
Donc pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, quand Bruno Retailleau dit on veut aller plus vite sur les régimes spéciaux à partir de 2025, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement dit ce matin non.
On est ouvert sur pas mal de choses de ce que veulent proposer les sénateurs. Sur la question des régimes spéciaux, on est plus que réservé.
Absolument. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de la réaction de ces régimes spéciaux, la RATP, d'autres, qui pourraient donc se mettre en grève encore plus fortement? Ils vous font au fond une forme de chantage et vous cédez face à ce chantage en disant non, on n'ira pas plus vite.
Non, on ne cède pas au chantage, je crois que ça se saurait. Par contre, encore une fois, on a supprimé les régimes spéciaux avec une certaine méthode pour la SNCF, ça fonctionne.
Oui, Bruno Retailleau, les sénateurs disent mais c'est dans 40 ans, au fond c'est injuste. Vous demandez des efforts à certains Français tout de suite. Et les régimes spéciaux, c'est dans 40 ans.
Vous savez ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore une semaine ou deux, quand le texte était à l'Assemblée nationale, vous aviez la NUPES, et le RN qui nous disait vous supprimez les régimes spéciaux, c'est injuste, il ne faut pas les supprimer, c'est normal qu'un conducteur de bus à Paris travaille, s'arrête 5 ans plutôt qu'un conducteur de bus à Marseille. Là, on voit qu'on passe dans une autre dimension, on nous dit bon, vous les supprimez, c'est bien, mais il faut aller plus vite. Encore une fois, notre position, elle a le mérite d'être équilibrée.
Donc, c'est pour ne pas mettre le feu au pays que vous faites ça ?
De façon générale, on ne veut pas mettre le feu au pays. Nous, on veut tourner notre pays vers l'avant. On ne veut ni le bloquer, ni mettre le feu. On le réforme pour qu'il soit solide. On a des enjeux majeurs à l'heure à laquelle je vous parle, sur le plan géopolitique. Vous parlez souvent de l'Ukraine sur votre antenne et je vous en remercie parce que c'est important que les Français comprennent ce qui se passe aux frontières de l'Europe. On a en ce moment, c'est la semaine du salon de l'agriculture, on a un enjeu majeur de souveraineté alimentaire pour notre pays et pour l'Europe. On a un enjeu majeur pour moderniser nos voies ferrées, nos infrastructures. La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé 100 milliards quand même sur le ferroviaire. Bref, on se tourne vers l'avant, c'est pas le moment de se bloquer.
On comprend. Terminons rapidement sur le Sénat, sur la retraite des femmes. Elisabeth Borne évoque dans le magazine Elle la piste de bonification des pensions en fonction des enfants. Vous nous confirmez que ça, c'est une piste dans les tuyaux, de faire en sorte que les femmes qui ont eu des enfants aient une bonification de leur pension, c'est bien cela ?
D'ailleurs, les sénateurs ont adopté un amendement en commission qui prévoit, je crois, qu'une des femmes qui ont eu au moins 3 enfants
de 5%
de surcote.
Donc le gouvernement y est favorable.
Là-dessus, on est ouvert à la discussion. Vous voyez ? À contrario de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les
donc
régimes spéciaux.
Donc c'est non pour les régimes spéciaux, mais là, oui pour les femmes.
Oui, on supprime les régimes spéciaux, mais non, on ne veut pas aller trop vite. Et oui, on est ouvert pour pouvoir envisager des améliorations pour les femmes qui ont eu des enfants, notamment cette mesure qu'on va examiner en séance publique,
dans les prochains jours. S'il y a des améliorations, c'est bien la preuve que la réforme était injuste et inefficace pour les femmes ?
Non, ça veut dire que tout est perfectible. Notre réforme, comme les autres.
Vous l'avez peut-être pas assez dit sur les femmes. On se souvient, Franck Riester, en disant oui, ça va pénaliser un peu les femmes. Et à ce moment-là, tout le gouvernement disait non, il s'est trompé, pas du tout.
C'est deux choses différentes, Benjamin Duhamel. que de dire, et nous avons raison de le dire, qu'avant la réforme, les femmes partent plus tard que les hommes. Après la réforme, les femmes partent plus tôt que les hommes à la retraite, de l'ordre de 2 mois. Il est juste aussi de dire que
la majorité de l'effort financier pèse sur les femmes.
Avec notre réforme, on tient mieux compte des congés parentaux, des congés proches aidants qui concernent surtout des femmes, et qu'on réduit l'écart salarial entre hommes et femmes dans notre pays pour réduire l'écart de pension de retraite. Tout ça est factuel. Là, il y a une autre proposition qui est différente et qui peut compléter notre dispositif, qui concerne des femmes qui ont eu plusieurs enfants, pour savoir si du fait qu'elles ont continué à exercer une activité professionnelle, que c'est pas simple d'avoir une famille nombreuse tout en bossant, est-ce qu'on peut faire un geste quand elles sont à la retraite?
On vous a entendu, Olivier Véran. Le 15 février, votre collègue ministre du Travail, Olivier Dussopt, donnait le chiffre de 40 000 nouveaux retraités qui bénéficieraient d'une retraite à 1 200 euros, ce qui est déjà nettement moins à ce que les Français pensaient au début du mois de janvier. Et on apprend finalement hier, c'est le ministre du Travail lui-même qui le reconnaît dans un courrier à Jérôme Guedj, député socialiste, que la retraite à 1 200 euros, ce ne sera que pour 10 à 20 000 nouveaux retraités, c'est-à-dire au plus 2,5% des retraités. Vous vous êtes trompé ou vous avez voulu tromper les Français?
Non, 4 chiffres, Benjamin Duhamel.
Non mais, 800 000,
ouais, mais attendez, je vous allais, je vous explique.
Mais répondez très 800, précisément.
800 000, c'est le nombre de Français qui partent à la retraite chaque année. 200 000, c'est-à-dire 1 sur 4, avec notre réforme, auront une hausse de leur retraite, qui est une petite retraite.
Je termine, sur les 1200.
Vous allez voir. 40 000, c'est le nombre réel de retraités qui aujourd'hui partent avec moins de 1 200 euros et qui partiront l'année prochaine avec plus de 1 200 euros. Et environ 20 000, c'est lié directement à l'impact de la réforme sur la retraite minimale. Le reste,
alors que
c'est parce que nous avons augmenté de façon générale les pensions de retraite pour les indexer sur l'inflation.
Olivier Véran, Olivier Dussopt, le 15 février, dit 40 000 nouveaux retraités seront à 1 200. Dans un courrier, il dit 10 à 20 000. Est-ce que au moins vous reconnaissez qu'il s'est trompé sur les chiffres?
Je voudrais bien vous faire plaisir parce que j'ai l'impression que vous avez envie que j'attaque mon collègue.
Vous savez, il y a un sujet de rapport à la vérité. Il y a des Français qui parfois ont le sentiment que le gouvernement avait des messages contradictoires. Juste au moins reconnaître que vous êtes trompé sur ce sujet.
Benjamin Duhamel, je vous redis les choses. 40 000 retraités auront 1 200 euros chaque année alors qu'ils n'ont pas 1 200 euros.
Pas du fait de la réforme. Combien de retraités seront à 1 200 euros?
Entre 15 et 20 000 du fait de la réforme et entre 20 000 et 25 000 parce que nous avons par ailleurs augmenté le niveau général des pensions des retraités. Donc
alors que Olivier Dussopt disait 40 000 le 15 février. Est-ce que vous comprenez que les Français se disent qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus précis?
Je vous redis, alors il faut sans doute que nous soyons tous plus précis. J'en prends aussi toute ma part comme porte-parole. C'est pas une réforme qui est simple à expliquer. C'est une réforme qui est même extrêmement compliquée à expliquer et il y a énormément de brouhaha autour. Donc il faut qu'on soit extrêmement précis. C'est pour ça que je vous redonne bien volontiers les chiffres. Il est vrai de dire que 40 000 qui n'ont pas 1 200 auront 1 200.
Mais
il est vrai
seulement du fait de la réforme.
Et il est normal de préciser que c'est la moitié du fait de la réforme et la moitié du fait que, et c'est aussi une bonne nouvelle, on augmente les pensions de retraite parce qu'il y a de l'inflation.
Le 7 mars, les syndicats promettent donc une France à l'arrêt. Des grèves reconductibles sont d'ores et déjà décidées. RATP, SNCF, éboueurs. Est-ce que vous êtes prêt à un bras de fer dans la durée, Olivier?
Il n'y a pas de bras de fer. Moi,
C'est ce que dit l'intersyndicale.
Attendez, chacun peut dire. Moi, je représente le gouvernement. On n'est pas dans un bras de fer avec les Français, les grévistes ou les syndicats. On est à l'écoute, on est dans le dialogue. La preuve, c'est qu'on a changé plusieurs fois notre fusil d'épaule. En tout cas, on a amélioré tout ce qu'on nous demandait d'améliorer. Il reste un point de blocage et un point de désaccord avec les syndicats. C'est le fait qu'on assume de demander aux Français de travailler progressivement.
Mais vous craignez une paralysie dans la durée du pays?
Je vous ai dit tout à l'heure que vu les enjeux qui sont devant nous, c'est pas le moment de paralyser le pays. Et je crois que les Français, ils aspirent légitimement à emmener leurs enfants à l'école, à aller pouvoir prendre leur travail, faire leurs courses, aller se soigner et pouvoir se déplacer dans la ville.
Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, ou le patron? L'autorité morale, disons. Dit grève générale le 7 mars.
Dites patron à vie, c'est pareil.
Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Dit grève générale le 7 mars.
Et donc, il est responsable de quel syndicat, Jean-Luc Mélenchon? J'ai cru comprendre que Philippe Martinez, qui lui, pour le coup, préside un syndicat, la CGT, avait expliqué à Jean-Luc Mélenchon qu'il en faisait peut-être un petit peu trop et que c'était peut-être un petit peu contre-productif. Donc, j'invite chacun à ne pas parler à la place des syndicats, vous voyez.
C'est quoi, Jean-Luc Mélenchon est-il légitime à vouloir mener le mouvement politique d'opposition à la
réforme? Si Jean-Luc Mélenchon décide un jour de présider un syndicat et non plus un parti politique, libre à lui de le faire.
La CGT Chimie, notamment, donc les raffineries, appelle à une grève reconductible dès le 6 mars. Au soir, c'est-à-dire lundi prochain, est-ce que ça veut dire que les Français vont subir une nouvelle fois, comme en octobre dernier, les pénuries, la galère à la station essence? Est-ce que vous leur dites, il faut vous préparer à ça?
On ne le souhaite pas, on ne le veut pas, et on demande à ce que ça n'arrive pas.
Ah, oui, mais sauf que là, en l'état, la CGT Chimie dit grève reconductible. Donc vous pouvez dire que vous le souhaitez pas, mais
Benjamin Duhamel, les gens ont le droit de faire grève, ils ont le droit de manifester. Ce qu'on explique aux gens, c'est que vu les échéances devant nous, vu l'inflation dont on a parlé tout à l'heure, vu toutes les problématiques liées à l'environnement, vu les transitions numériques qui sont en cours, vu tout ce qu'on a devant nous comme chantier pour notre pays, si on veut avoir une France forte dans une Europe forte, et si on veut que les Français aillent mieux demain qu'aujourd'hui, La pire des choses, ce serait de bloquer le pays.
Mais j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Vous dites on ne le souhaite pas, mais il y a un manque de lucidité sur la colère des Français, sur... Vous misez au fond sur une forme d'usure que les gens se disent bon, on rentre de vacances, on n'a plus assez d'argent, on va pas faire grève.
Il y a une différence.
Vous entendez le message que vous envoient les forces syndicales, les Français qui disent le 7 mars, on va tout arrêter parce qu'on est opposé à cette réforme.
Personne ne mise sur l'usure. On explique qu'on est dans un fonctionnement démocratique. À l'heure à laquelle je vous parle, les sénateurs sont en train de se lever après ou sont déjà debout examiné et adopté un texte de loi en commission. Ils vont l'examiner en séance publique au Sénat. Moi, je suis respectueux des institutions démocratiques. Laissons les parlementaires faire ce travail aussi. Ils ont quand même légitimité pour le faire et on continue d'être dans
notre dialogue. Il n'y a pas de légitimité du mouvement.
Je vous ai parlé tout à l'heure de notre capacité qu'on a encore d'écouter et d'accepter des avancées sociales pour les Français.
Une question très précise. S'il y a des pénuries d'essence, est-ce que le gouvernement se laisse la possibilité de faire des réquisitions, comme ce qui était arrivé en octobre dernier?
Moi, je ne fais pas de scénario catastrophe et je ne fais pas de plan sur la comète. Je vous dis juste qu'il y a des dispositifs légaux qui existent et que nous sommes désireux, volontaristes pour faire en sorte que notre pays avance et pas qu'il soit bloqué. Et on est au soutien des Français, de ceux qui travaillent, et qui ne sont pas d'accord avec la réforme. Comme
et donc,
ceux
ça
qui
fait partie de l'arsenal légal du gouvernement si d'aventure il y avait des blocages. En 2010, Nicolas Sarkozy l'avait fait au moment d'une réforme des retraites. Vous l'avez fait en octobre dernier.
On a eu à le faire en octobre lorsque la grève avait duré longtemps, qu'il y avait pour le coup des pénuries dans les stations d'essence qui s'étaient installées et que les Français étaient empêchés de se mobiliser et d'aller travailler, d'aller se soigner. Donc on l'a fait à ce moment-là. Mais encore une
donc
fois,
si ça arrive une nouvelle fois,
ça veut pas dire qu'on aurait un bouton
vous
caché.
Vous n'aurez pas la main qui tremble, pour reprendre une expression.
Mais on n'est pas du tout dans ce scénario-là aujourd'hui. On n'est pas encore dans un mouvement de grève qui aurait débuté, que vous voulez nous demander si elle aurait suffisamment duré pour qu'on réquisitionne. Encore une fois, on est à l'écoute dans le dialogue et on a envie que les choses se passent le mieux possible. Un
tout dernier mot sur le 7 mars. Quand on regarde l'intersyndicale de la SNCF qui se mobilise, il y a la CFDT cheminot. CFDT, syndicat réformiste. Est-ce que vous attendez à un moment donné que si la France est bloquée, Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui a pu faire partie de vos interlocuteurs par le passé, la précédente réforme des retraites, mette le haut là et dise là, ça suffit, tradition démocratique de la CFDT, si le texte est voté. Est-ce que vous attendez quelque chose de lui? Est-ce que ça vous étonne qu'il soit aussi dur dans son ton sur cette mobilisation?
D'abord, Laurent Berger continue d'être un interlocuteur. Il ne faut pas en parler au passé. On continue de travailler, d'avancer avec lui, notamment sur la question de l'organisation du travail.
Des mots très aimables à votre égard. Hein. À votre égard, c'est le gouvernement d'ailleurs.
C'est pas nouveau que quand il y a un désaccord entre des syndicats et un gouvernement en place, quel qu'il soit, autour d'un texte de loi, il puisse y avoir des échanges d'amabilité. Ça n'empêche pas qu'on travaille d'arrache-pied avec lui sur la question du rapport au travail, de la qualité de vie au travail, de tout ce qui concerne les Français, le télétravail, l'organisation du temps de vie, etc. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure qu'un politique n'avait pas à se substituer à un responsable de syndicat. Donc, je ne vais pas commencer à le faire maintenant et à expliquer à Laurent Berger comment il doit faire avec son syndicat, avec la CFDT. Donc, je respecte Laurent Berger, je respecte tous les syndicats et libre à lui de se déterminer. Je rappelle juste que nous sommes dans une démocratie avec un Parlement fonctionnel et que si d'aventure notre projet de loi était adopté au Parlement, il aurait respecté tous les circuits institutionnels prévu par la Constitution.
Avant de dire un mot sur la crise entre les médecins généralistes et l'exécutif, une question clin d'œil. Emmanuel Macron hier a fleuri la tombe de François Mitterrand à Jarnac, celui qui avait fait la retraite à 60 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un ancien socialiste, François Mitterrand, il aurait soutenu cette réforme des retraites?
Alors, j'ai une certitude, mais je ne veux pas non plus parler à la place de François Mitterrand, je ne vais pas me faire des amis, mais je doute fort que François Mitterrand ait goûté à la NUPES. Je crois qu'il n'était pas lambertiste, pas trotskiste. Je crois que c'était quelqu'un qui s'inscrivait dans une gauche de gouvernement, qui est arrivé à la tête d'un pays qui pouvait...
François Mitterrand, il aurait aimé un accord avec Éric Ciotti, Bruno Retailleau Gérard Larcher.
Je ne suis pas sûr non plus, pour être tout à fait franc, mais personne ne parle d'un accord. On est en train de parler de l'intérêt du pays et l'intérêt supérieur de la nation. François Mitterrand était un président qui le plaçait très haut dans sa logique politique.
Olivier Véran, crise ouverte donc entre les médecins généralistes et l'exécutif. Il n'y a pas eu d'accord sur les tarifs de consultation. Comment on sort de cette crise, vous qui avez été ministre de la Santé? C'est la guerre ouverte entre les médecins généralistes et l'exécutif, dialogue de sourds?
Non, ni dialogue de sourds, ni guerre ouverte. Il y a normalement, c'est vrai, une convention, c'est-à-dire entre la sécurité sociale et les médecins libéraux, ils doivent signer un accord qui définit leurs tarifs pour les années à venir et en échange les devoirs des médecins. Là, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table quand même, parce que je connais bien le système conventionnel, il y a eu plus d'argent que lors des conventions précédentes. Les médecins le refusent, libre à eux de le faire. Et dans ce cas-là,
une proposition,
c'est déjà arrivé dans le passé.
Très faible proposition de revalorisation par rapport à ce qu'étaient les demandes des médecins
plus
généralistes.
1 milliard d'euros quand même sur la table, et ça représente plus de 7000 euros de hausse de revenus par an. Peu importe ce que je vais vous dire.
Que se passe-t-il
maintenant? D'abord, je comprends que les médecins libéraux aient souffert pendant la crise Covid, eux aussi. Mmh. Ils ont eu un rôle majeur et je les salue et je les remercie pour ça. Et je les incriminerai jamais. Ensuite, notre objectif prioritaire, c'est de faire reculer les déserts médicaux. Avec le petit nombre de médecins dont on dispose dans notre pays par rapport aux besoins, vous savez qu'on en forme beaucoup plus désormais grâce
oui,
à la suppression
des médecins. Les médecins généralistes refusent le principe de on vous comment dire on revalorise plus la consultation à condition de répondre à certaines obligations. Ils ne veulent pas de ce principe. Ils disent
mais c'est là je suis
on pas, est déjà tellement assailli de normes point, de travail administratif.
Je ne suis pas en accord avec mes confrères sur ce point-là et je leur dis qu'il est urgent de développer les coopérations interprofessionnelles. Il est urgent de permettre à des soignants qui le peuvent de travailler en coopération, en coordination avec eux davantage au service des malades pour faire reculer les déserts médicaux. Et il suffit pour regarder, sans convaincre, de regarder les exemples européens. Aux Pays-Bas, vous avez une densité médicale moindre qu'en France et vous n'avez pas de problème de déserts médicaux.
On s'en sort comment ?
Vous avez ce qu'on appelle un règlement arbitral. C'est-à-dire que
vous êtes optimiste sur le fait qu'il y ait une possibilité de...
C'est un règlement, vous savez, c'est le système qui le prévoit. Et donc, il va y avoir toujours la recherche d'un accord, d'un consensus, mais il y a un règlement arbitral qui va considérer que la nouvelle convention pour les années à venir s'applique dans telle ou telle condition. Mais je vous le redis, on a besoin des médecins libéraux. Les médecins libéraux ont besoin aussi, pour sortir de la tête de l'eau, de pouvoir travailler davantage avec leurs collègues paramédicaux. Et c'est aussi ça qu'on veut encourager.
Il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Merci Olivier Véran,
porte-parole
du gouvernement.